Bonjour à tous. Alors ce matin, on continue dans notre poursuite de l'étude de la lettre aux Hébreux. J'avoue que le sujet de ce matin est un peu délicat, je trouve. Et j'aurais bien voulu commencer avec le premier verset de notre passage qu'on va lire tout à l'heure. Le premier verset dit juste, c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer. Et j'avoue que la préparation de ce message n'a pas été évidente pour moi non plus. Et voilà, jusqu'à ce matin encore, ça cogite dans ma tête. Alors mon défi, ça va être de le rendre le plus simple et abordable possible, finalement, pour qu'on puisse sortir édifié et encouragé de cet enseignement. En réfléchissant à l'image que je voulais prendre, enfin, pour aborder un petit peu ce texte ce matin, il m'est venu dans notre salle de bain en ce moment, on a une image d'Alain Auderzé avec deux enfants qui sont assis sur un banc. Et puis il y a le petit garçon qui dit à la petite fille « je t'aime » et puis la petite fille qui dit « comme les adultes » et le petit garçon qui répond « non, moi c'est pour de vrai ». Alors on ne va pas parler du thème de l'amour ou de tout ça, mais simplement pour dire la réalité des enfants et celle des adultes peut vraiment être parfois bien différente. Et aujourd'hui, un thème central de ce passage, c'est justement cette maturité en Christ. Bon, là, pour le coup, on a peut-être les enfants qui étaient plus mûrs que nous, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes dans notre cheminement avec le Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes prêts finalement à entendre vraiment? Alors, la lettre aux Hébreux, hein, c'est une lettre qui reste assez mystérieuse parce qu'on ne connaît pas son auteur et on ne connaît pas non plus les destinataires. Alors, un peu plus d'éléments pour les destinataires. Il serait probable que l'auteur s'adresse plutôt à un groupe judéo-chrétien, en tout cas des chrétiens qui sont d'arrière-plan juif, ou en tout cas au moins à une communauté mixte où il y avait des personnes juives qui appartenaient à cette communauté. Certains pensent que ce serait peut-être des juifs, même palestiniens, qui parlait araméen, ou alors des juifs de la diaspora, enfin voilà, d'un groupe qui serait à un endroit et qui a cet arrière-plan juif. Et la semaine dernière, donc Michael nous a abordé la nouvelle place que Jésus-Christ pouvait avoir comme sacrificateur par excellence. Et notre texte, il arrive juste après cette section-là, juste après ces versets d'enseignement. Et c'est comme si l'auteur voulait exhorter à la maturité, après avoir enseigné quelque chose qui était peut-être difficile à concevoir à l'époque. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Alors je vous propose de lire Hébreux 5, à partir du verset 11, et on va lire aussi une partie du chapitre 6. Donc Hébreux 5, verset 11 jusqu'à 6, verset 12. Je prends la version du Semeur. Donc, comme je l'ai lu tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qui est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et à la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante, et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu l'a bénie. Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, ne vous relâchez pas, mais vous imitez ceux qui, par la foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Voilà la fin de la lecture. En lisant ce texte, j'ai l'impression d'avoir fait le message et voilà, de pouvoir vous laisser comme ça, en tout cas d'avoir tout est dit. Mais en reprenant les premiers versets, donc, on constate que l'auteur reproche aux Hébreux finalement de revenir un peu en arrière. Il leur reproche d'avoir encore besoin de lait, d'avoir à nouveau besoin d'entendre des fondements de la parole de Dieu, alors qu'à leur stade, ils sont supposés être, comme dit l'auteur, hein, je cite, des maîtres dans les choses de Dieu. Mais apparemment, ce n'est plus le cas. Et l'image du lait et de la nourriture oppose l'enseignement de base à une instruction un peu plus avancée que veut transmettre l'auteur à ses lecteurs. Le lait, c'est facile à ingurgiter, alors que la nourriture solide, ça demande un certain effort avant de pouvoir l'avaler. Et c'est un peu la même chose finalement. Les fondements de base peuvent être faciles à comprendre, alors que l'enseignement qui va suivre, en tout cas de ce que veut enseigner l'auteur, est un peu plus ardu finalement à entrevoir, à concevoir. Alors du coup, pour ingurgiter cette nourriture, il faut être à un stade plus avancé. Ce qui différencie le bébé de l'adulte, c'est que cet adulte a la capacité de distinguer le bien, ce qu'il est bien de faire, ce qui va honorer Dieu et ce qui ne l'est pas. Avoir cette capacité de discernement de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, comprendre plus en profondeur finalement le message que Dieu veut nous transmettre. Et pour cela, on a besoin d'acquérir une certaine maturité en Christ. Alors avant d'aller plus loin, il y a une question qu'on pourrait se poser, c'est quel intérêt finalement de devenir adulte ? Est-ce que ce n'est pas plus confortable de rester un bébé, de boire le lait qu'on nous donne ? Et en bébé, finalement, on va chercher à le protéger, à s'assurer qu'il ne tombe pas. On attend bien moins d'un bébé que d'un adulte. Un adulte, par contre, il va être quelqu'un de responsable, livré à lui-même, qui va devoir assumer ses propres choix. Et l'auteur, justement, il veut mettre en garde contre le danger qu'il y a de vouloir continuer à se nourrir au lait. Le danger, finalement, c'est de dériver. Le danger, c'est de s'éloigner de Dieu, c'est d'arriver à un stade de non-retour. Et justement, il veut préserver ses lecteurs de ce piège et chercher à les mettre en garde contre un endormissement qui les éloignerait de Dieu. Et à l'époque, c'était vraiment le cas, le danger qu'avaient ces lecteurs, parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'il y avait peut-être beaucoup d'anciens qu'il fallait restaurer. Alors, quel est vraiment ce danger ? Comme je l'ai dit, le souci de l'auteur, c'était vraiment d'éviter qu'ils s'endorment, qu'ils s'éloignent trop de Dieu. Et on va relire le message qu'il dit au verset 4. En effet, ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience de la force du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude. Car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Ce piège, c'est l'endormissement qui peut amener à l'aveuglement et carrément à renoncer au salut. Alors, vous admettrez comme moi que c'est un message qui est peut-être difficile à entendre. Et je pense que c'est seulement à la lumière de tout le reste de l'Évangile que nous devons voir ce passage. Et le danger de non-retour est bien réel, ce danger pour les non-juifs de l'époque, de retomber dans les pratiques qu'ils connaissaient, de revenir à la vie d'avant et de ne plus laisser Jésus-Christ régner dans leur vie. En tout cas, de ne pas chercher à laisser Jésus-Christ régner dans leur vie était là. Et il est d'ailleurs clairement dit qu'à ce stade-là, il n'y a plus de retour possible. Ceux qui ont goûté à la vie avec le Seigneur, qui ont fait cette expérience de son pardon et qui lui ont volontairement tourné le dos, vont le crucifier une deuxième fois. Les propos, ils sont durs à entendre et pourtant, qui démontrent finalement combien de l'œuvre de Christ, elle est parfaite, mais elle est aussi juste et bien réelle. Elle est juste. ceux qui ont eu cette connaissance, qui en toute connaissance de cause, pardon, décident malgré tout de tourner le dos à Dieu, offensent Dieu. C'est le blasphème du Saint-Esprit. C'est le péché dont Jésus a déjà parlé quand il était sur la terre. La faute, elle est d'autant plus grave qu'elle est irréversible. Et c'est faire ce choix délibéré que Dieu n'a pas de place dans la vie, dans la vie de la personne, que le sacrifice de Jésus ne sert à rien, que le Saint-Esprit ne peut même pas les convaincre. C'est ce constat-là que ces personnes font. Et il s'agit de personnes qui ont résisté justement à cet appel du Saint-Esprit, qui se sont obstinées et qui arrivent à tourner définitivement le dos au Seigneur. Ceux qui en sont arrivés là n'ont même plus accès à la repentance, c'est-à-dire qu'ils ne se posent même plus la question à savoir s'ils peuvent revenir ou pas. Rien que de se poser la question, finalement, si nous, on se demande est-ce qu'on a blasphémé le Saint-Esprit, nous prouve que nous ne l'avons pas fait. J'avais vu cette image de comme si la personne était sur un pont en direction du salut de Jésus, qui voit cette œuvre, qui contemple tout ce que cela peut lui apporter. Il y a ce pont avec ces deux barrières sur le côté qui évite de tomber, hein, parce que voilà, c'est Dieu, il nous donne aussi cette assurance, mais une fois qu'on s'est donné à lui. Mais la personne qui est en chemin vers le Seigneur, qui finalement est sur ce pont-là, et qui connaît tout ça, et qui voit tout ça, et qui finalement délibérément choisit de passer par-dessus la barrière. Et une remarque que j'aimerais faire concernant ces personnes, c'est que ça ne nous appartient pas de savoir si telle ou telle personne est dans cette situation de non-retour. On n'est pas apte à juger de cela, et il ne nous est même pas demandé de chercher à le savoir. Notre responsabilité, simplement, c'est de prier pour tous, sans distinction. Nous n'avons pas à condamner une personne, mais justement à prier pour elle. Et face à une telle réalité, il est difficile d'envisager que Dieu ne puisse pas pardonner. C'est difficile pour nous parce qu'on a cette image de Dieu qui est plein d'amour, qui est lent à la colère, qui pardonne. Et finalement, c'est en cela que la maturité spirituelle est importante. On ne doit plus avoir juste une vision peut-être un peu édulcorée d'un Dieu qui n'est qu'amour et que grâce. C'est aussi un Dieu qui est pleinement juste dans ses décisions. Et d'ailleurs, l'auteur va rebondir encore une fois là-dessus. Au chapitre 10, à partir du verset 29, je vais simplement vous le lire, où il est écrit « À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'Alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore ?» Nous connaissons bien celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. » C'est Dieu qui parle. « C'est moi qui rendra à chacun son dû. » Et encore, « Le Seigneur jugera son peuple. » Et l'auteur termine en disant « Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Il est attendu d'un adulte dans la foi d'avoir une vision juste et équilibrée de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de garder ce qui est à notre avantage. C'est cela, avoir de la maturité. Pouvoir manger de la nourriture solide, suffisamment bien connaître le Seigneur, connaître son œuvre pour ne pas se laisser influencer par des faux enseignements, avoir cette capacité d'analyse sur ce qui nous est dit à son sujet et savoir discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Alors du coup, comment acquérir cette maturité? Alors au verset 14, si on reprend le verset 14, il nous est dit au chapitre 5, « Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. » Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et pour comprendre ces enseignements, il faut exercer le sens moral. Il faut avoir l'habitude, c'est par l'usage que ce discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal s'enracine en nous. Cette pratique, elle se vit par la proximité que l'on peut avoir avec Dieu, par l'apprentissage de qui est Dieu au travers de sa parole. Avoir le sens exercé à discerner ce que Dieu attend de nous. C'est avoir finalement une conscience qui ne soit pas endormie par le péché. Comme disait Marie ce matin, d'avoir cette soif de sainteté finalement, de savoir quelle est la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Cette conscience, elle nous alerte finalement face à ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. Elle nous fait ressentir notre besoin aussi du pardon de Dieu. Elle nous amène à avoir une réelle aspiration aux choses de Dieu. Et tout cela est possible finalement en étant proche de Dieu, en ayant une véritable communion avec lui. En cheminant avec Dieu, notre esprit commence à comprendre aussi les réalités de Dieu progressivement. Si nous nous adressons à un enfant, nous allons chercher à lui parler en simplifiant les choses, en lui donnant des éléments qui sont compréhensibles pour son âge. Et le discours changera peut-être un peu plus quand il aura une vision complète des choses et quand lui-même fera ses propres expériences. Et il en est de même finalement dans notre foi avec le Seigneur. Nous avons besoin de pratiquer pour ancrer vraiment cette parole de Dieu en nous. Il ne s'agit plus d'obéir sans comprendre, mais d'avoir un esprit aiguisé et d'avoir un discernement, finalement, d'essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu il attend derrière ses commandements. Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Justement, toute cette loi et ces commandements qui sont dans la parole de Dieu sont là pour nous aiguiller. Mais Dieu ne souhaite pas que nous les appliquions sans chercher à comprendre le sens profond qu'il y a derrière. Qu'est-ce que Dieu attend de nous quand il nous demande d'aimer notre prochain ? Quand il nous demande de respecter le jour du repos ? Quand il nous demande de nous soumettre à nos autorités ? Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ces commandements-là ? Où est-ce que Dieu il veut en venir ? Qu'est-ce qu'il attend de nous réellement ? La réponse à ces questions nous permet d'adapter finalement son enseignement à notre vie d'aujourd'hui, d'avoir des réponses pour notre vie au quotidien. Sa parole, elle est vivante. Même si elle a été écrite à une époque et à une culture et dans une culture qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui, on voit bien que parce que son esprit est là, cette parole devient vivante et il nous aide à avoir ce discernement, de déguiser notre intelligence. Et pour cela, encore une fois, nous avons besoin de connaître Dieu, de savoir qui il est vraiment, de savoir qu'est-ce qui l'anime profondément, de savoir quel est son plan. Et pour les Juifs de l'époque, si on revient à notre lettre aux Hébreux, faire le tri entre l'Ancien et le Nouveau n'était pas évident. Le culte lié au système sacerdotal, avec tous ces lévites et tout ce système qui était mis en place de sacrifices, tout est remis en question avec la venue de Jésus. Et par son sacrifice, il devient ce sacrificateur par excellence. Alors le danger pour eux était de rester dans les anciennes pratiques, d'endormir leur conscience finalement en pensant faire le bien, mais en s'éloignant de Dieu. Et dans la liste qui a été mentionnée dans le texte tout à l'heure, il parlait qu'il ne voulait pas revenir sur les baptêmes, sur le renoncement des actes et des choses comme ça. Parce que finalement, en soi, à l'époque, ce n'était pas forcément des mauvaises choses à faire. Mais quel sens elles avaient avec la lumière de l'Évangile ? Et ça, on en parlait avec Mickaël juste avant le culte ce matin, qui m'a parlé de ce commentaire qu'il avait lu sur Brad Dixon, comme quoi le message évolue même avant le culte, et où Brad Dixon, dans son commentaire aux Hébreux, qu'effectivement, avoir cette maturité, c'est finalement quelle place l'Évangile, quel éclairage l'Évangile a dans nos vies. Comment nous incarnons cet évangile-là ? Pour nous, aujourd'hui, à notre tour, nous avons à nous positionner sur ce qui se passe autour de nous. Nous sommes confrontés à des problèmes de société qui vont à l'encontre des valeurs de Dieu. Alors finalement, comment est-ce qu'on réagit face à ces défis-là ? Il n'y a pas forcément tout écrit dans la Bible de manière concrète. Et chaque situation est différente. Comment défendre sa position, par exemple, dans des débats entre amis ? Comment poursuivre une amitié avec un proche qui nous apprend son homosexualité ? Comment réagir face à un ado qui passe par un moment difficile ? Comment être un témoin de l'amour de Dieu vis-à-vis de collègues peut-être qui nous mettent dans des situations compliquées ? Et ça, c'est que certains exemples, mais j'imagine que vous en avez plein d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Tchad, il y avait d'autres questions qui faisaient débat et qu'on n'a peut-être plus aujourd'hui, mais pour dire que la parole de Dieu nous parle dans toutes les situations. Là-bas, c'était est-ce qu'il faut accepter un repas qu'on nous sert alors que la viande vient d'un sacrifice ? Est-ce qu'un chrétien peut assister à des rituels païens en l'honneur d'un proche ? Et s'il n'y va pas, est-ce qu'il va renier sa famille ? C'était d'autres réalités. C'est d'autres réalités. Chaque situation est différente et les réponses toutes faites n'existent pas. Et nous avons besoin de mettre en pratique, d'expérimenter pour aiguiser notre discernement, d'être à l'écoute de ce que le Seigneur attend de nous. Il ne suffit pas d'intellectualiser. Nous avons vraiment besoin de concrétiser dans nos vies. Et il n'y a pas d'âge pour avoir une maturité en Christ. Ce n'est pas parce qu'on vient de se convertir qu'on n'a peut-être pas une maturité sur certaines choses. Ou alors peut-être depuis longtemps, on est dans le Seigneur et on aime bien peut-être juste appuyer sur ce qu'on nous a dit. Il n'y a aucun jugement à se faire là-dessus, mais en tout cas, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Son esprit nous accompagne au quotidien pour nous éclairer et pour nous aider justement à prendre les bonnes décisions, acquérir de la maturité, pour savoir se positionner dans ce monde dans lequel nous vivons. Cette maturité est importante pour savoir justement comment agir conformément à ce que le Seigneur attend de nous et pour pouvoir s'enraciner en lui. Dernier passage que je reprends, le verset 7. Justement, quand il parle de cette terre arrosée, donc au chapitre 6, verset 7. « En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. » Alors c'est pour cela que notre relation aussi au Seigneur a besoin d'être vivante, pour qu'on puisse être comme ces terres arrosées qui va produire des plantes utiles et que Dieu va bénir. Et à l'inverse, au verset 8, il est dit « Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. » L'auteur parle de ceux qui seraient tentés de faire demi-tour ou alors qui justement n'ont pas encore fait ce choix-là et qui pensent être dans la bonne direction. Je voudrais simplement vous rassurer. Nous concernant, nous ne devrions même pas nous poser la question à savoir si cela peut nous arriver un jour. On a cette assurance du salut. Si on profite pleinement de la présence de Dieu, on ne pourra même plus nous passer de cela. Si nous sommes vraiment convaincus que seul Christ nous donne cette vie-là, pourquoi chercher ailleurs? Et puis Dieu, tout au long de sa parole, nous confirme combien il ne nous abandonne pas. Il est avec nous, il est fidèle. Bien sûr, il peut y avoir des moments de doute, des moments de remise en question. Personne n'est à l'abri de vivre des temps de crise, y compris de la foi. Je les vois un peu comme des passages dans le désert, qui peuvent durer même parfois des années pour certains. Mais dans notre texte, il ne s'agit pas de cet éloignement-là. Dieu nous promet tout au long de sa parole de nous garder fidèlement dans sa main, quoi qu'il arrive, et de nous ramener à lui aussi bas que nous pouvions tomber. Et le peuple d'Israël est un bon exemple pour nous de cela. Mais en vivant, nous, cette proximité avec Dieu, en le connaissant de mieux en mieux, encore une fois, en espérant que ses promesses vont s'accomplir, on n'a aucun doute à craindre concernant notre salut. Dieu nous assure lui-même de préparer une place pour nous là-haut, auprès de lui. Et l'auteur, il va également rassurer ses lecteurs dans les derniers versets de notre passage, au verset 9, chapitre 6, verset 9. « Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Ce sera la dernière partie de mon message. Vous êtes du bon côté, celui du salut. C'est vraiment ce que... Voilà, j'aimerais aussi vous laisser ce matin. Nous n'avons pas de soucis à nous faire si nous avons déjà répondu positivement à l'appel du Saint-Esprit. Nous avons déjà été convaincus par lui. Nous avons répondu positivement à son appel et nous sommes assurés de cela. Par contre, nous sommes encouragés, comme il a été dit, à amener notre espérance à son plein épanouissement en imitant ceux par qui la foi et l'attente patiente vont recevoir l'héritage promis. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous aujourd'hui? Finalement, on est habitués, nous, à vivre dans ce péché-là. On est habitués, on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça va être une vie sans péché. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous promet. C'est ce qui nous attend. Et il est encore plus beau, plus grand que ce que même on pourrait imaginer. Il est encore plus parfait que ce que nous pourrions penser. Dans notre quotidien, il est facile de perdre de vue finalement notre destination finale. Il s'agit vraiment de conserver cette espérance que nous avons un jour d'être auprès du Seigneur. D'être pleinement libéré de ce péché-là. D'être pleinement et parfaitement guéri et restauré. Vraiment de considérer notre situation actuelle, ce que l'on vit, avec un nouveau regard, avec cette belle perspective d'avenir que Dieu nous promet, avec cet évangile qui donne vraiment du sens à notre vie. Et plus loin, hein, dans le livre aux Hébreux, hein, nous avons toute la liste des héros de la foi que nous devons imiter. Et c'est dans cette attente, dans cette espérance, que nous recevrons un héritage. Dieu, finalement, ça ne lui suffit pas de nous combler aujourd'hui. Je me suis dit, finalement, il nous donne déjà tellement de bien aujourd'hui, mais il prévoit encore quelque chose de plus pour nous là-haut, pour tous ceux qui lui appartiennent. Et vraiment, voilà, Dieu nous encourage à voir au-delà de notre réalité du quotidien, d'avoir cette maturité pour pas seulement comprendre ce qu'il veut nous dire au travers de ses commandements, mais d'avoir ce filtre, on va dire, en tout cas, que notre vie prenne une autre dimension avec cette foi et cette attente, justement, de notre vie avec le Seigneur là-haut dans le ciel. Nous avons vu combien il est important d'avoir une maturité spirituelle, hein, de comprendre les choses de Dieu, de regarder au-delà des simples commandements qu'il nous demande d'avoir, d'apprendre à connaître vraiment le cœur de Dieu, qui il est, ce qui l'anime vraiment. Alors nous aurons une vision plus juste de son œuvre. Terminons par la prière. Seigneur, simplement je voudrais venir devant toi en toute humilité, en te demandant pardon, parce que peut-être parfois nous avons une vision, j'ai une vision un peu trop naïve ou trop différente de qui tu es vraiment, Seigneur. Mais merci parce que ta parole est là, Seigneur, pour continuer à nous éclairer, même si peut-être elle n'est pas toujours évidente à comprendre ou à voir tous les aspects, Seigneur, de ton œuvre, même si elle ne fait pas toujours plaisir, voilà, en tout cas, à entendre. Mais merci parce que toi, tu es là, Seigneur, et qu'on veut pleinement avoir cette assurance que tu as choisi de faire de nous tes enfants et que tu nous tiens fermement dans ta main. Merci pour cette belle avenir que tu nous promets d'avoir avec toi, Seigneur, et que pour ce temps ici sur la terre, tu nous permettes d'avoir ce discernement, de comprendre et de grandir toujours davantage en toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.